Dans la paracha Vayigash, on a expliqué à partir de l'enseignement du rabbi dans le Devar Malchut que Yehuda y représente le bitoul, la soumission la plus totale. Alors on voit donc dans cet enseignement du rabbi que aujourd'hui ces êtres qui semblent les plus inférieurs, en fait qui reçoivent leur lumière de niveau supérieur, comme on pourrait donner l'exemple encore une fois de la lune elle reçoit toute sa lumière du soleil. On voit que dans les temps futurs, la Lune elle va retrouver sa taille originelle, c'est-à-dire qu'elle va grandir. Donc aujourd'hui, elle est totalement soumise, puisqu'elle n'a pas une lumière qui lui est propre, mais elle ne fait que recevoir sa lumière. Et ça, c'est à l'exemple d'une femme vertueuse. Une femme, elle va recevoir toute sa lumière, toute l'influence de son mari. Mais dans les temps futurs, elle va, entre guillemets, retrouver sa taille originelle, puisqu'elle va devenir la couronne de son mari. Donc, de la même façon, on a étudié dans le Devar Malchut de la Parasha Vayigash que Yehuda, qui est aujourd'hui soumis à Yosef, dans les temps futurs, il va s'élever puisque c'est un descendant de Yehuda qui va devenir le Mashiach. Donc, ce principe-là, comment on parvient à cette élévation? Comment on parvient à ce que, dans le langage kabbalistique, on parle de la Séphira de Malchut, c'est la dernière Séphira du monde d'Atsilut, elle ne fait que recevoir sa lumière des Séphirotes supérieures, mais dans les temps futurs, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres Séphirotes, à l'exemple de cette épouse vertueuse qui devient la couronne de son mari. De quelle manière on parvient à ce niveau-là? C'est par le Bitoul, c'est la qualité de Yehuda. Yehuda, il possède cette force-là, et c'est même une qualité même du Mashiach, puisqu'on dit que Mashiach, en comparaison à Moshe, ce qui le différencie de Moshe, c'est que Mashiach, il est capable de recevoir. Il a cette capacité de soumission la plus totale, comme on dit que Dieu, il ne réside que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis. De la même façon, Yehuda, c'est celui qui est totalement soumis à Dieu et qui possède une force qui lui permettra de vraiment de déprovoquer la délivrance. C'est pour ça que le rabbi, dans le Dvar Malchut, il prend l'exemple de Yehuda pour nous expliquer l'importance d'être un Keli, l'importance de savoir se soumettre à la volonté de Dieu, afin de révéler l'essence divine en nous-mêmes et dans ce monde. En fait, le principe qui est énoncé ici, ce principe-là, il est repris dans la paracha de Vayechi. Ce principe, c'est de comprendre que notre attitude pendant l'exil, ça doit être une attitude pendant laquelle on doit savoir regarder et dévoiler la racine des choses. Alors l'exemple qui est donné par le rabbi ici, c'est celui du fer, le fer, le barzel. Barzel, le fer, c'est un matériau qui est employé pour la destruction, puisqu'on construit des armes avec du fer, et comme le temple il a été aussi détruit par du fer, on voit que le fer il symbolise la destruction. Mais Dieu il a créé une chose et son contraire, c'est-à-dire qu'il y a le fer du côté de l'impureté, mais il y a aussi le fer du côté de la sainteté. Et tout le travail, toute notre mission, c'est précisément de transformer l'obscurité en lumière, de faire le tikkun, la réparation de la destruction, la réparation du fer de l'autre côté de la sainteté, afin de dévoiler le côté de la sainteté qui existe dans le fer. Et le fer du côté de la sainteté, alors le fer en hébreu, c'est quoi? C'est le mot barzel. Le rabbi nous enseigne que les lettres du mot barzel, c'est le beit, qui correspond, c'est l'initiale de Bila, la servante de Rachel. Rachel, c'est la seconde lettre, Resh. Ensuite vient le Zayn, c'est Zilpa, qui est l'initiale de la servante de Léa. Et Léa, elle vient en dernier, le Lamed de Léa. Donc ça compose le mot Barzel. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce mot? Le rabbi nous enseigne, on voit que les servantes, elles précèdent les matriarches. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est précisément une allusion à la délivrance finale. C'est précisément une allusion à ce qu'on vient de dire au sujet de Yehuda, au sujet de la lune, au sujet de la Séphira de Malchut, c'est-à-dire que les servantes qui sont aujourd'hui, dans leur contexte, elles sont soumises aux matriarches, en fait, elles précèdent les matriarches dans le mot Barzel, c'est-à-dire dans le mot qui évoque le fer du côté de la sainteté, puisque le fer, ce sera un matériau qui sera employé pour la construction du troisième temple. Donc on voit que ce principe, il revient ici, il revient dans notre paracha, et le rabbi, il vient nous rapporter ce principe-là pour insister justement sur le travail qui consiste à regarder le monde et à dévoiler la racine des choses. Alors, un enseignement qui est précieux que le rabbi va nous délivrer ici, c'est l'enseignement au sujet de l'été et de l'hiver. Pendant l'été, les jours d'été, les jours sont plus longs que les nuits. Donc, qu'est-ce qui est dominant dans l'espace d'une journée? C'est la lumière du soleil. Pendant l'hiver, c'est le contraire. Les nuits sont plus longues que les jours. Donc, qu'est-ce qui domine pendant les jours d'hiver? C'est la lumière de la lune. Donc, on voit ici que la lune et le soleil, la dominance de la lune pendant l'hiver et la dominance du soleil pendant l'été. La lune, elle représente le corps. Elle représente le corps qui reçoit sa lumière de l'âme, et l'âme, donc, elle est comparable au soleil. Mais de la même façon, cette comparaison, on peut la faire au sujet, comme on l'a dit, de Yehuda et de Yosef. On voit qu'au départ, Yehuda lui-même, il est totalement soumis à Yosef, donc on peut dire que Yosef, il représente le soleil, et Yehuda, il représente la lune. De la même façon, une épouse vertueuse qui devient la couronne de son mari, au départ, cette épouse-là, elle est comme la lune, puisqu'elle reçoit sa lumière de son mari, du soleil. Et de la même façon, la Séphira de Malchut, elle représente la lune. Puisque la Séphira de Malchut, elle n'a pas de lumière qui lui est propre, elle reçoit sa lumière de toutes les autres séphirotes qui sont comparables au soleil. Donc ce principe-là, il s'applique aussi au corps et à l'âme. Pendant les jours d'été, qu'est-ce qui est dominant dans notre service divin? C'est le soleil, c'est-à-dire c'est les forces de l'âme, les forces qui se révèlent de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et qui se révèle dans le corps. Les forces de l'âme, ce sont l'intellect, les sentiments et les actions. Donc pendant l'été, l'homme il va avoir des facilités à dévoiler les forces de son intellect, donc des facilités pour étudier la Torah et pour donc assumer son service divin et donc à profiter de la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière qui provient des forces de son âme, l'âme qui se révèle dans le corps. Maintenant, pendant l'hiver, c'est différent. Pendant l'hiver, on voit que donc c'est la lumière de la lune qui domine, qui est supérieure à la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça représente ici, la lumière de la lune? Alors, il faut se rappeler de cet enseignement qui est donné dans la Chassidoute, où on explique que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps. C'est-à-dire vraiment, l'âme, elle va recevoir toute sa force, toute sa vitalité, toute sa substance même du corps lui-même. Pour quelle raison l'âme, elle va désirer le dévoilement du corps? Parce que la différence entre le corps et l'âme, c'est que le corps, il a une racine supérieure à l'âme. Du fait que le corps, c'est de la matière, et la matière, elle provient de l'essence de Dieu. Et donc ça, on voit ici que l'origine même du corps, elle est supérieure à l'origine de l'âme, puisque le corps, il provient de l'essence de Dieu. Dans les temps futurs, qu'est-ce qui va être vraiment révélé? C'est la racine, encore une fois, la racine du corps. Donc, comme on l'a vu au sujet de la lune, comme on l'a vu au sujet de l'épouse vertueuse, comme on le voit au sujet de la Séphira de Malchut, comme on l'a vu au sujet de Yehuda en comparaison avec Yosef, on voit ici aussi que quand on dévoile la racine du corps, alors on parvient à l'essence divine. Donc, ce moment-là où l'âme sera nourrie par le corps. Donc, ce niveau-là, qui est un niveau supérieur, puisque c'est le corps, il provient de l'essence divine, il s'exprime tout particulièrement pendant le mois d'hiver. Là-dessus, le rabbi, il nous renvoie un verset dans lequel il est dit que le corps prend plaisir du corps. Quand on parle du corps, on parle de l'essence de Dieu. Dieu, il va prendre plaisir du corps des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie ici qu'il prend plaisir du corps des enfants d'Israël? Ça signifie que Dieu, il va prendre plaisir de ce dévoilement de l'essence divine qu'un juif il va réaliser. Donc, et qui appartient, pourquoi ici on dit du corps des enfants d'Israël? Parce que le corps lui-même, il procède du niveau de l'essence de Dieu. De quelle manière on peut parvenir à ce dévoilement de l'essence divine au moyen du corps? C'est le niveau de Yehuda, justement. C'est le niveau du bitoul, de la soumission la plus totale. Kabbalat Ol. C'est-à-dire la Kabbalat Ol, quand on agit, l'acceptation du joug divin, c'est supérieur, d'une certaine manière, aux forces révélées de l'âme, à l'intellect. Comme le Rabbi Rayatz, il a expliqué, il a dit que quand on a du mal à rentrer la tête dans de l'eau bouillante, mais le talon, on peut le rentrer vraiment dans l'eau bouillante sans craindre de douleur aiguë. Donc on voit que dans le talon, il y a une force qui est supérieure à la tête. On voit, c'est la même chose ici. Le corps lui-même, le talon, il représente la partie la plus grossière du corps, ce qui représente vraiment le corps dans sa matérialité. Et bien, ce corps-là, il possède une force que l'âme ne possède pas. C'est-à-dire que vraiment, l'intellect, en tout cas, les forces de l'intellect, on voit que l'intellect, il affaiblit la force de Messirut Nefesh. Si un homme, il réfléchit, alors il va avoir du mal à donner sa vie pour Dieu. Alors que quand il dévoile cette capacité de Messirut Nefesh, sans hésiter, à l'image de ce talon qui rentre dans l'eau bouillante, il va agir au-delà de l'intellect. C'est pour cela que le Rabbi Rachab, il a expliqué dans son ouvrage « La source », Il a expliqué justement la force de Messirut Nefesh. Ça s'exprime dans le verset dans lequel il est dit que le peuple juif, c'est un peuple qui a la nuque raide. Donc il a la nuque raide, c'est-à-dire qu'il agit avec une inébranlable détermination pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire le bien et pour s'éloigner du mal. De la même façon, on voit que Yaakov, il a béni Yehuda en lui disant « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis ». Qu'est-ce que ça signifie, ce verset « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis » ? L'Admor HaZaken, il explique dans le Torah Or sur la Parasha Vayechi que la nuque, ça représente l'autre côté de la sainteté. Alors que la face, elle représente la volonté profonde et la volonté la plus intérieure de Dieu. La main de Yehuda, elle est sur la nuque de ses ennemis. Ses ennemis, ils représentent justement l'autre côté de la sainteté. Ils représentent l'âme animale, lorsque le mauvais penchant, tous les désirs grossiers et dénués de divin. Mais la main de Yehuda, elle doit agir justement sur l'autre côté. Elle doit transformer l'obscurité en lumière. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire qu'encore une fois, on doit voir à travers même tout l'autre côté de la sainteté, le moyen de parvenir à la sainteté. Ce qu'on a dit au sujet du fer. Le fer lui-même, du côté de l'autre côté de la sainteté, il représente la destruction. Tout notre travail, c'est de transformer justement cet autre côté en un côté de sainteté. C'est de faire en sorte que ce qui symbolisait la destruction, ça va nous servir au contraire à reconstruire le temple. Le fer, ça va être le matériau qui sera employé dans le troisième temple. Donc c'est une allusion à ce principe-là. Donc on peut dire ici sous la forme de Chidouche, parce que c'est pas écrit, c'est pas rapporté dans le Devar Malchut, mais le numéro atomique, le numéro du tableau périodique des éléments, le chiffre qui correspond au fer, c'est le chiffre 26, comme par hasard. 26, c'est la valeur numérique du nom d'Avayé. Donc on voit ici, ça met l'accent sur, justement, ça vient illustrer un peu cet enseignement du Rabbi, qui vient nous dire que par notre soumission la plus totale, on peut parvenir à transformer les niveaux les plus inférieurs en un niveau de sainteté. Dans le Devar Malchut, le Rabbi aussi, il va nous enseigner aussi que les bénédictions que Yaakov va donner à tous ses enfants vont nous renforcer à tous les enfants d'Israël, tous les enfants de Yaakov dans notre service divin pendant l'exil. Donc c'est important aussi de s'attacher à ce Shabbat là en particulier. Et dans une de ses sirot, le Rabbi a expliqué que Yaakov, il était sur le point de dévoiler à ses enfants le secret, c'est-à-dire de dévoiler la date d'arrivée du Mashiach, et à ce moment-là, la Shrina l'a comme quitté, et il a pas pu dévoiler justement cette date-là. Et le Rabbi a donné l'exemple de Moshe, quand Moshe est descendu et qui tenait avec dans ses mains les tables, les tables de la loi et qu'il a vu que le peuple il était en train de se corrompre, à ce moment-là, on dit que ses mains elles ont perdu de leur force et il a laissé tomber les tables. Donc c'est la même façon. On voit ici que Moshe, la façon dont la Shrina l'a quitté, de la même façon, Yaakov, il a été comme ça aussi, il a eu comme une perte de connaissance pendant un moment, et il n'a pas pu révéler à ses enfants la fin des temps. C'est intéressant ici de se rappeler d'un autre enseignement du Malbim, qui a expliqué que, en fait, quand Moshe il s'est approché du peuple qui était en train de pécher, on dit que les lettres qui étaient gravées par Dieu sur les tables de la loi, elles se sont envolées à ce moment-là. Donc on voit le rapport qui existe aussi avec Yaakov, puisque au moment où il allait dévoiler le secret de la délivrance, de la Géoula, les lettres de sa parole elles se sont aussi, d'une certaine manière, envolées, puisque la Shrina l'a quitté à ce moment-là et il n'a pas pu révéler ce secret. Donc c'est important ici de s'attacher à cette image-là, à cet exemple-là, que Dieu il a gravé les lettres dans la pierre des tables. Et que quand les lettres elles ont quitté les tables, elles se sont envolées parce qu'elles ne pouvaient pas supporter le péché des enfants d'Israël, donc elles se sont envolées, elles ont quitté les tables, alors les tables elles sont devenues lourdes. Et c'est pour ça que Moshe ne pouvait plus les supporter, et c'est pour ça qu'il les a laissées tomber. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que c'est le divin qui soutient la pierre. On voit que les lettres, c'est elles qui soutenaient le poids des tables. De la même façon, un juif, il doit graver la parole de Dieu en lui-même pour qu'elle soutienne son corps, pour que son corps, il puisse fondre avec la force même de l'essence de son âme pour servir Dieu de manière parfaite. C'est intéressant aussi peut-être de faire un rapport et de finir là-dessus avec le Rabbi Rachab. Quand on pense par exemple au fait que Yaakov il était sur le point de dévoiler à ses enfants le secret de la fin des temps et il s'est tu, ça nous rappelle cette histoire qu'on répète souvent dans les shiurim ici, quand on a parlé que le Rabbi Rachab il était sur le point de dire Mahamar mais il s'est tu. Pourquoi il s'est tué? On avait expliqué parce que ses élèves qui chantaient le nigoun juste avant que le Rabbi Rachab procède à la récitation du Mahamar, ses élèves avaient chanté le nigoun avec empressement. Ils s'étaient dépêchés de chanter le nigoun pour entendre les paroles du Rabbi. Et le Rabbi, au lieu de réciter le nigoun, leur a dit « Vous avez fait une erreur parce que vous auriez dû chanter avec tout votre être. » Le nigoun lui-même qui précède le Mahamar, c'est une préparation au Mahamar, il fait partie du Mahamar. Donc de la même façon ici, on voit que Yaakov, il était sur le point de dire le secret de la fin des temps, mais en réalité, ses enfants, et ça c'est la raison que le Rabbi l'a donné, ils n'étaient pas prêts à entendre justement cette révélation. Et on pourrait faire donc la comparaison avec cette histoire du Rabbi Rachab, et on dit que les enfants d'Israël, en fait, ils étaient à l'exemple de ces chassidim qui étaient pressés d'entendre le Mahamar et qui ont bâclé le chant, qui ont chanté avec empressement. Donc de là, on peut se rappeler de cette histoire-là, et de penser que, de revenir à cet enseignement du Rabbi qui nous explique à partir de cette histoire que chaque moment de notre vie, il doit être considéré selon toute l'importance qu'il a. C'est-à-dire que chaque moment de notre vie, il a un contenu profond. Et ce contenu profond, il nous prépare à un événement. Et chaque fois, et chaque événement qu'on doit vivre, on doit le vivre de manière intense et profonde. On ne doit pas faire de différence entre un événement et un autre, se dire que celui-là il est plus important que l'autre. Non, on doit vivre le moment présent avec la même recherche profonde, avec la même intensité, avec le même acharnement. Et surtout, si on doit se rappeler de cet enseignement de ces deux parachutes de Vaïgash et de Vaïri, surtout à l'exemple de Yehuda, en ressentant la soumission la plus totale vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du Rabbi, en accomplissant vraiment ses injonctions, ses enseignements, en s'imprégnant de son enseignement, de manière à révéler ensuite et d'être à l'exemple de la lune, à l'exemple de la Séphira de Malchut, à l'exemple de cette épouse vertueuse, à l'exemple de Yehuda, de devenir, et à l'exemple du corps, comme on l'a dit, de dévoiler justement, à partir de choses qui nous semblent vraiment inférieures, l'essence de Dieu, Bezrat Hashem, avec le dévoilement du Mashiach dès à présent, Shabbat Shalom, Umevorach.